Et 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie. Ce sera avec Camille Gros-Didier, mais voici quelques reliefs. Sommet États-Unis-Afrique, le président Barack Obama a annoncé ce mardi les investissements chiffrés à quelque 14 milliards de dollars. La bonne gouvernance au premier plan du sommet États-Unis-Afrique.
Cet argent sera injecté dans les secteurs de la construction, l'énergie propre, le secteur bancaire et les technologies de l'information, a fait savoir la Maison-Blanche.
Le président Macky Sall donne l'exemple et le riz, denrée essentielle à la sécurité alimentaire en Afrique, a fait l'objet d'un forum dans la capitale sénégalaise. Jean-Roger Billon à ce microphone, tout de suite un bulletin d'information. On va tout d'abord en République centrafricaine, démission du premier ministre de transition André Nzapayeke et de son gouvernement. Par ailleurs, un calme relatif règne à Batafangafo au lendemain de violents affrontements de soldats français et ex-Legra. Le point Idriss Fall.
La démission du premier ministre André Nzapayeke et de son gouvernement a surpris plus d'un. Cette démission est intervenue à la demande de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, pour permettre la mise en œuvre des engagements issus du forum de Brazzaville. Par ailleurs, les ex-Séléka haussent le ton après les violents affrontements entre les combattants ex-Séléka et soldats français de Sangaris à Batangafo. Pour Moussa Mohamed Dafane, qui avait dirigé la délégation de ce mouvement au forum, la réaction des militaires français est une violation de l'accord de Brazzaville.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville, il était prévu qu'on mette en place un comité de suivi de cet accord-là. Or, ce comité de suivi n'a pas encore été mis en place. On ne peut pas impliquer aujourd'hui les forces internationales pour aller livrer la guerre aux parties. Or, le comité de suivi n'a pas encore été mis en place. Sangaré s'est déployé pour aller livrer la guerre aux ex-combattants de la Séléka pour les déloger de la ville de Batangafo. C'est pas normal.
Le porte-parole militaire de l'ex-Séléka, le capitaine Ahmed Nedjad Ibrahim, a parlé d'au moins 36 morts et à Sangaris, on a parlé de plusieurs morts et des dégâts importants côté Séléka.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les armes se sont tues à Gaza où une trêve de 72 heures est entrée en vigueur aujourd'hui matin. Entre-temps, les efforts se multiplient pour parvenir à un accord durable et la fin du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Israël a aussi annoncé le retrait de ses troupes de Gaza. Selon le colonel Peter Lerner, porte-parole de Sahel, les soldats israéliens vont occuper des positions défensives après avoir détruit les 32 derniers tunnels connus du Hamas. Le groupe utilisait ces tunnels pour des raids transfrontaliers. Pour plus de précisions, nous avons joint l'envoyé spécial de la VOA Gaza, Scott Bob.
Le cessez-le-feu a l'air de tenir pour le moment. Ce matin, quand je suis passé par zone d'interpellation, je n'ai vu aucun signe de militaire israélien, ni de char, ni de personnel. Et d'après les militaires israéliens, ils se sont retirés. Ils ne sont pas loin de la frontière avec le Gaza, mais ils se sont retirés du territoire gazéen complètement. Le gouvernement israélien a annoncé que sa délégation qui attendait à Tel Aviv et à Jérusalem irait au Caire pour joindre les délégations palestiniennes pour entamer les négociations sur un cessez-le-feu plus long et peut-être plus dur.
Un général américain a été tué dans une attaque perpétrée par un soldat afghan dans un complexe militaire près de Kaboul. C'est le plus haut gradé américain à tomber dans le pays depuis le début du conflit en 2001. L'assaillant a été tué après qu'il a ouvert le feu, a précisé le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. Il portait un uniforme de l'armée afghane et a blessé aussi d'autres militaires américains et membres des forces internationales, dont un général de brigade allemand. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant au magazine de l'économie.
Ici Washington, Camille Gros-Didier avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Sommet États-Unis-Afrique. Le président Barack Obama a annoncé ce mardi des investissements chiffrés à quelque 14 milliards de dollars.
Cet argent sera injecté dans les secteurs de la construction, l'énergie propre, le secteur bancaire et les technologies de l'information, a fait savoir la Maison-Blanche.
Des détails dans un instant avec Michel Joseph. La bonne gouvernance au premier plan du sommet États-Unis-Afrique.
Je pense que dans quelques années, tout le monde comprendra que si on veut prendre un mandat public, il y a des contraintes.
Le président sénégalais Macky Sall donne l'exemple. Et le riz, denrée essentielle à la sécurité alimentaire en Afrique, a fait l'objet d'un forum à Dakar. Deuxième journée du sommet États-Unis-Afrique ce mardi, ici à Washington, la capitale. Le point avec Jacques Aristide.
Le président Barack Obama annonçait mardi que les entreprises américaines se sont engagées à investir 14 milliards de dollars dans divers projets à travers l'Afrique. Cet argent sera injecté dans les secteurs de la construction, l'énergie propre, le secteur bancaire et les technologies de l'information, a fait savoir la Maison-Blanche. Monsieur Obama offrait cet après-midi des précisions devant les participants au forum, la rencontre visant justement à renforcer le commerce et les investissements en Afrique. Le président s'exprimait devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'entreprises publiques et privées. Ces investissements permettront d'approfondir l'engagement économique des États-Unis en Afrique, ce qui alimentera la croissance et élargira la prospérité de l'Afrique et des marchés émergents pour les entreprises américaines et soutiendra l'emploi aux États-Unis et en Afrique, a poursuivi la Maison-Blanche. Le président Obama prendra part mercredi à une discussion avec des dirigeants d'entreprises et des chefs de gouvernement. Il sera accompagné du secrétaire au commerce Penny Pritzker, de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg et de l'ancien président Bill Clinton. Le forum d'affaires permettra à des dizaines de chefs d'État africains de discuter avec des dirigeants américains et africains du monde des affaires. Plus de 90 entreprises américaines participeront à la rencontre, notamment Chevron, Citigroup, Ford Motor, General Electric, IBM, Lockheed Martin, Marriott International, Morgan Stanley et Walmart. Dans un communiqué, la secrétaire au commerce a fait valoir que les accords paraffés cette semaine à Washington représentent une preuve concluante que l'Amérique est prête à faire davantage d'affaires avec l'Afrique, alors même que l'essor économique du continent ne fait que commencer. Chaque jour, 250 000 Américains occupent des emplois soutenus par les exportations vers l'Afrique et ces accords permettront d'accroître la prospérité des deux côtés de l'Atlantique dans les mois à venir, a poursuivi Mme Pritzker. L'administration Obama n'est pas la première à chercher à profiter de l'essor de l'Afrique. Ces dernières années, la Chine, l'Inde, le Japon et l'Europe ont organisé des sommets sur l'investissement à travers le continent. Pour certains analystes, Washington semble chercher à rattraper son retard.
Camille Grodidi avec vous. À l'occasion de ce sommet États-Unis-Afrique de Washington DC, le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté les ministres africains à privilégier le libre-marché et la coopération américano-africaine. Des détails avec Michel Joseph.
So I say unabashedly.
Je le dis sans vergogne, nous voulons et nous allons travailler dur pour faire en sorte qu'un plus grand nombre d'entreprises américaines investissent en Afrique. Nous voulons aussi que davantage d'entreprises africaines investissent ici aux États-Unis. Il n'y a aucune raison pour laquelle elles devraient s'en abstenir.
Monsieur Kerry s'exprimait lundi à l'occasion d'un forum de la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique, à Goa, au siège de la Banque mondiale. Cette législation, qui avait été promulguée en 2000, permet aux pays africains admissibles d'exporter la plupart de leurs produits en franchise de douane aux États-Unis. Depuis 14 ans, la Goa a été l'un des principaux outils pour promouvoir commerce et l'investissement en Afrique, a relevé M. Kerry. Et devinez quoi ? Ça marche. Nous avons vu les importations en provenance des pays de la Goa augmenter de 300%. Qu'il s'agisse du cacao et de la noix de cajou en provenance du Ghana ou des textiles de Maurice ou encore des produits pétrochimiques de l'Angola. La Goa a servi de catalyseur pour l'essor du commerce et de la prospérité et il a aidé à promouvoir une meilleure protection pour la main-d'œuvre africaine.
La prospérité peut remplacer la pauvreté et la coopération peut triompher des conflits.
M. Kerry a également réclamé d'autres progrès dans la lutte pour la bonne gouvernance et contre la corruption.
To do so will take courage.
Cela nécessite du courage et oui, cela signifie parfois prendre des risques. Mais lutter contre la corruption ne fait pas qu'améliorer le bilan d'un pays. La transparence et la responsabilité attirent davantage d'investissements. Elles créent un marché plus compétitif.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Toujours concernant le sommet États-Unis-Afrique, la bonne gouvernance occupait une place proéminente à l'occasion du Forum de la société civile. Il s'est tenu lundi en marge du sommet États-Unis-Afrique. Et à cette occasion, le vice-président Joe Biden a vanté les valeurs démocratiques et les droits humains en évoquant le rôle primordial de la société civile dans la défense de ses droits et de la bonne gouvernance. Mais la société civile a noté qu'elle n'était pas conviée aux réunions de mardi et mercredi, rappelle Nicolas Pineau.
Cette même société civile ne sera pas présente lors du dialogue entre Barack Obama et les présidents africains mardi et mercredi. Un raté, selon le Nigérien Ali Idrissa, coordinateur national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger.
Je crois que c'est quand même l'administration américaine doit se dire que c'est une erreur grave à ne pas pouvoir impliquer la société civile dans une rencontre où il y a les chefs d'État africains. Aujourd'hui, la voix de la société civile en Afrique compte. Ça compte dans le cadre de pouvoir pousser à une bonne gouvernance, surtout de nos ressources. Aujourd'hui, surveiller la gestion de ces ressources, on ne peut pas exclure la société civile dans ce dialogue.
De nombreux chefs d'entreprise participeront à ce sommet placé sous le thème d'investir dans la nouvelle génération. Selon les chiffres de la Banque africaine de développement, l'espérance de vie a augmenté en Afrique. Elle était en moyenne de 58 ans en 2011. Même chose pour le taux de scolarisation primaire qui a atteint 77%. Écoutons Donald Kaberuga, le président de la BAD.
Entre 2000, 2005, 2006, on a eu beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle le domaine extractif, donc de mines, le pétrole, le gaz. Et puis après, il s'est étendu au domaine des services, et surtout technologies d'information, des infrastructures, des services divers.
Selon la Fondation Mo Ibrahim, la bonne gouvernance aussi a fait des progrès dans 46 pays africains sur 52 entre 2000 et 2013. Cela prend en compte la sécurité, le respect de la loi, les droits de l'homme et les progrès économiques. Voici le milliardaire soudanais Mo Ibrahim.
On note que 94% des Africains aujourd'hui vivent sous des meilleurs gouvernements que 10 ans auparavant. C'est la mesure de la bonne gouvernance, donc on avance. La bonne gouvernance progresse et c'est ça la bonne nouvelle concernant l'Afrique.
Demain, place aux choses sérieuses avec le début des réunions entre Barack Obama et les leaders africains. Nicolas Pineau, Washington, La Voix de l'Amérique.
Washington, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Si certains acteurs de la société civile se félicitent des propos tenus par les dirigeants américains, ils évoquent également ce qui, à leurs yeux, reste des carences. On écoute Marc Ona de l'ONG Brain Forest au Gabon.
Je pense que ces interventions sont allées dans le sens de ce que les Africains attendent de l'administration Obama. Après avoir prononcé deux discours très forts en Afrique du Sud et à Accra, surtout à Accra, où il a déclaré que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes politiques forts, mais des institutions fortes. Et je pense que ce que nous avons entendu aujourd'hui n'est que le démarrage, le début de la concrétisation de ces mots en actes, où effectivement il est question que l'Amérique appuie toutes les sociétés civiles africaines pour que ces sociétés civiles accompagnent le processus de démocratie, la lutte contre la corruption dans nos pays.
C'était très très important à la fois pour le secrétaire d'État américain John Kerry et pour le vice-président Joe Biden de soulever ces questions de gouvernance, de démocratie, parce que en fait, ça reste assez fragile à travers le continent. Depuis la Côte d'Ivoire qui se remet à peine d'une guerre civile jusqu'à la Centrafrique qui est encore en conflit.
Oui, je pense que pour éviter que les situations que vivent les Centrafricains et ce que les Ivoiriens ont vécu ne se produisent dans d'autres pays, il faut accompagner la voix des peuples, les peuples africains, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Moi, je viens du Gabon où, effectivement, le président Bongo Omar est mort après avoir été en fonction pendant 42 ans. Et quand il meurt, c'est son fils qui succède. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Et surtout pour imposer une dictature nouvelle, je crois qu'il faut que les Américains comprennent que si on veut lutter contre le terrorisme en Afrique, si on veut vraiment lutter contre l'injustice, si on veut investir en Afrique, il faut d'abord assainir le paysage politique. Il faut que les institutions soient des institutions républicaines. Par conséquent, si l'Amérique n'accompagne pas ces Africains qui militent pour que, enfin, il y ait une réelle démocratie, il n'y a pas de développement sans démocratie, je pense qu'Obama aura marqué un coup pour le continent africain. Parce qu'il faut aussi rappeler que les Africains sont un peu déçus. Nous avons cru à l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président d'origine africaine pour aider les Africains à mener le combat de libération. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore noté un signal fort venant des États-Unis pour ça.
Pourtant, oui, le président Obama a été très ferme ces derniers temps. Notamment, il a fait savoir que les présidents africains ne devraient pas changer les constitutions pour assurer un troisième mandat que ces constitutions ne prévoient pas.
Oui, entre les mots et les actes. C'est le même Obama qui a dit à Accra que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes politiques forts, mais les institutions fortes. Mais nous notons que, je parle au cas du Gabon, il n'y a pas un effort considérable qui est fait pour que les institutions au Gabon soient réformées afin d'aller dans le sens du discours d'Obama. Il faudrait que l'administration américaine perde tout son poids pour que les mots qui sont prononcés lors des grands forums, ces mots soient transformés en actes. Nous voulons les actes en Afrique, ni de discours. Parce que l'Afrique souffre énormément, surtout en Afrique centrale. L'Afrique francophone est l'Afrique la plus arriérée. Et pourtant, c'est l'Afrique la plus riche en matière, en termes de ressources naturelles. Donc le problème, c'est au niveau des gouvernants. Vous avez des dictateurs. En Afrique francophone, vous avez des chefs d'État qui ont mis plus de 20 ans, 30 ans au pouvoir. Mais pourquoi? C'est ça. C'est pour ça que les actes comptent entre les discours. Aujourd'hui, en Afrique francophone, plusieurs chefs d'État sont en place de modifier leur constitution. Nous sommes curieux de voir comment les États-Unis vont agir par rapport à cela.
On écoutait Marc Onaha de l'ONG Brain Forest au Gabon. Ici Washington, Camille Grosdidier, je vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie. On revient sur la gouvernance en Afrique. Les choses s'améliorent, certes. On fait valoir les intervenants au sommet États-Unis-Afrique. Des dirigeants africains donnent d'ailleurs l'exemple. Parmi eux, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qui a tenu à procéder à une déclaration de patrimoine. On l'écoute.
Imaginez que dans 10 ans, que cela redevienne le principe et que mais c'est toute notre économie qui va bénéficier et c'est toute la société sénégalaise qui gagnera dans ce principe. Donc, mais comme nous sommes en phase de démarrage, les transitions sont difficiles, mais très vite, les gens se rendront compte que c'est ça la norme. Aux États-Unis, ça se fait, ça ne dérange personne. Mais nous, nous venons de le commencer. Donc, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Mais je pense que dans quelques années, tout le monde comprendra que si on veut prendre un mandat public, il y a des contraintes. Et soit on accepte d'y aller avec les conséquences, c'est-à-dire on n'a plus la liberté de faire ce qu'on veut, on doit rendre compte régulièrement, on doit faire la reddition et au besoin, à la fin de son mandat, on doit aussi faire une nouvelle déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est vraiment dans la gouvernance que j'ai initié cela. Je sais que ça ne plaît pas, y compris dans mon propre camp, puisque les gens ils considèrent que le pouvoir, c'est l'exercice aussi des privilèges, c'est le lieu où on doit pouvoir se réaliser selon sa volonté. Or, malheureusement, ce n'est plus le cas.
Le président sénégalais Macky Sall au micro d'Idrissa Sédoudia. Vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique au micro Camille Grosdidier. On se tourne vers la Côte d'Ivoire, voilà. Malgré la suppression de nombreux barrages militaires illégaux et l'arrestation de plusieurs soldats indélicats qui rançonnaient les populations sur des axes routiers, le racket se poursuit. Son impact sur la vie économique de la Côte d'Ivoire est considérable, car il revient à une taxe supplémentaire pour les populations, notamment les plus vulnérables. Le point sur ce fléau des routes africaines avec notre correspondant à Abidjan, Germaine Dré.
Le racket exercé par les forces de sécurité ivoiriennes et son lot de tracasseries aux barrages routiers coûte illégalement 350 milliards de francs CFA par an aux transporteurs locaux, selon une étude menée par la Banque mondiale en 2008. Cet état de fait d'agents véreux constitue un obstacle à la libre circulation des biens et des personnes en Côte d'Ivoire, en même temps qu'il porte un impact négatif sur l'activité économique du pays. Avec le démantèlement de plusieurs barrages et le licenciement de quelques agents, le niveau de ce fléau connaît un répit. Charles Kouakou, transporteur.
Le racket a beaucoup baissé. Ce n'est plus comme avant, c'est au niveau surtout des FRC. Ce n'est plus comme avant, mais la plupart ce sont les FRC. Voilà, que moi je vois en train de prendre quelque chose à 100 francs, 200, 500 francs. Même quand vous arrivez à un corridor, c'est toujours les FRC qui vont prendre l'argent et puis après ils vont se partager entre les policiers et la gendarmerie.
Arunan Traoré, chauffeur de Baka, estime qu'il faut y mettre un terme.
Le racket continue. On nous prend déjà dans ces routes. Il veut qu'on va arrêter quoi.
Selon Yehou Julien Charlemagne, les causes du racket sont multiples.
C'est lié beaucoup à la pauvreté, non seulement à la pauvreté du ventre, mais à la pauvreté de l'esprit. C'est pas facile. Même quelle que soit l'augmentation des salaires de ces personnes, il y a un réflexe. Dans tous les domaines, hein, ce qui est plus visible, c'est ceux qui posent des actes peut-être plus ou moins odieux, tels que les corabillés, même dans la fonction publique. Dans tous les domaines, on s'attend à quelque chose parce qu'on veut soutirer quelque chose, mais c'est un comportement.
Les conséquences sont énormes et graves pour les populations, dit Kofi Kwame, Christian Alain.
Le racket appauvrit la population. C'est difficile de refuser un pot de vin parce que quand on sait qu'en prenant ça, ça peut gérer la popote à la maison ou bien ça peut gérer l'ordonnance d'un enfant ou bien ça peut gérer la scolarité d'un enfant. Comprenez qu'on ne peut pas dire non. Je souhaiterais que l'État essaie de mener une bonne politique sociale de sorte que quand les ménages retrouvent leur joie, quand les plus pauvres ont facilement accès à la santé, facilement accès à l'éducation, je crois que ça va régler le problème. Les choses pourront aller.
Soro Jean-Jacques pense que les dispositions légales peuvent être mises en place.
Pourquoi ne pas mettre en place, par exemple, dans chaque région, des organes chargés de lutter contre la corruption?
Germaine Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie au micro Camille Gros-Didier. Le riz est l'une des principales denrées de consommation en Afrique de l'Ouest, une grande nécessité pour la sécurité alimentaire, mais voilà, la consommation dépasse largement la production. Le Sénégal notamment importe plus de 400 000 tonnes de riz par an et cherche à réduire sa dépendance. Un atelier sur la problématique du riz local s'est tenu à Dakar. Le point avec notre correspondante Dienaba Seydouba.
La consommation du riz local au Sénégal et en Afrique de l'Ouest devient une priorité. Mieux, une nécessité de l'avis de Amadou Daoudadia du Fonds international du développement agricole.
Le commerce du riz à l'échelle mondiale ne concerne que 5% de la production mondiale. Or, des pays comme l'Inde, la Chine vont devoir bientôt réduire leur exportation de riz. Ça veut dire que sur le marché international, il y aura moins de riz. Alors, c'est en cela qu'il est important que les pays africains comme le Sénégal développent la production du riz pour satisfaire leurs besoins en matière de consommation.
Pourtant, la production du riz intéresse de plus en plus les exploitants. Amadou Moustapha Beye, représentant régional de Africa Rice.
Dans le cas du Sénégal, nous avons beaucoup de petits exploitants agricoles, notamment dans la zone, quand vous descendez de Fatick vers le sud, également en couvrant Tambacounda, Bakel, je dis qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau de cette zone. À riziculture pluviale, c'est des gens qui comptent sur le pluvial. Hein? En irrigué ici, on a des rendements assez intéressants qu'on ne trouve pas partout. Hein? Nous avons des producteurs qui peuvent atteindre 10 tonnes à l'hectare. 10 tonnes à l'hectare, 12 tonnes à l'hectare. Celui qui atteint 10 tonnes à l'hectare, mais il va dire que son coût de production risque d'être peut-être autour de 80 francs. Même si tu vends le riz à 150 francs, lui, il a fait 100% de bénéfice.
Pour Pour booster la production de riz, les experts préconisent l'accès aux terres et aux intrants. Amadou Daoudadia.
L'ISRA a mis au point un certain nombre de variétés. Il y a de nouvelles variétés de riz qui sont tolérantes à la sécheresse, tolérantes à la salinité, donc adaptées au changement climatique. Nous travaillons également sur la transformation post-récolte pour permettre justement aux producteurs d'avoir du riz de qualité. Nous travaillons également sur la mécanisation même de la production de riz avec des motoculteurs, etc. Il s'agit maintenant de faciliter aux producteurs l'accès aux semences de qualité, l'accès aux engrais, mais également l'accès aux matériels agricoles pour la production et l'accès aux matériels de post-récolte.
Le Sénégal importe annuellement 400 000 tonnes de riz, une donne que le gouvernement sénégalais veut changer. L'État veut arrêter l'importation du riz d'ici 2018. Pour cela, un programme est mis en œuvre pour accompagner la production locale. Diana Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, vous êtes à l'écoute du magazine de l'économie. Au micro, Camille Grosdidier. Selon des experts agricoles, les petits agriculteurs en Afrique peuvent jouer un rôle clé pour mettre fin à l'insécurité alimentaire dans la région, s'ils sont intégrés dans la chaîne de valeur. Morgan Guiriec nous en dit plus.
Les pays d'Afrique subsaharienne continuent d'importer plus de nourriture chaque année qu'ils n'en exportent. Près de 60% des terres arables non cultivées au monde se trouvent en Afrique, mais beaucoup d'Africains n'ont pas assez à manger. Pour les experts, il est clair que les petits agriculteurs pourraient jouer un rôle dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, stimuler la croissance et réduire la pauvreté ainsi que le chômage. Adebayo Oulokoshi, directeur de l'Institut africain des Nations Unies pour le développement économique et la planification. Le petit exploitant reste un acteur important à travers le continent africain. Il constitue le fondement de la population agricole. Donc il est clair que si la majorité de la population est paysanne, et par définition, aucune stratégie de sécurité alimentaire ne peut être vraiment efficace si elle ne les intègre pas pleinement. Toujours selon M. Oulokoshi, les petits producteurs agricoles donneraient donc à l'Afrique la possibilité de se nourrir et ils pourraient également aider les pays africains à devenir le grenier du monde. Mais comme le nombre de grandes fermes industrielles augmente, exporter s'avère pratiquement impossible pour la plupart des petits exploitants. Édouard Diata est un cultivateur de riz de la région de Casamance Sud, au Sénégal.
Avant d'exporter, il faut être de gros producteurs. Donc nous produisons pour nous nourrir seulement, pour l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, certainement, si on essaie d'exporter, il y a d'autres personnes qui seront intéressées par le riz de la Casamance. Et pourquoi pas? Mais pour exporter, non, parce que la quantité ne nous permet pas.
Le coordonnateur de la conférence des ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, Baba Dioum, dit que des agriculteurs comme Diata sont confrontés à quatre principaux obstacles quand il s'agit de l'accès à un marché plus vaste.
D'abord, ils n'ont pas une bonne organisation. Ils n'ont pas les capacités techniques pour digérer les innovations technologiques qu'il faut pour répondre au marché. Ils n'ont pas les capacités financières, ils n'ont pas les capacités commerciales à intégrer cela.
Toujours selon Baba Dioum, beaucoup de petits agriculteurs dépendent aussi de la météo. S'il ne pleut pas, les récoltes sont mauvaises et de nombreux agriculteurs hésitent à investir dans un secteur qui pourrait leur faire perdre de l'argent. Car avant d'investir, ils ont besoin de savoir à qui ils vont vendre et avoir des garanties de prix. Juliana Diata cultive du riz et des arachides sur une petite parcelle à Mossor, un village à 45 km environ à l'ouest de Ziguinchor.
Ici, on a la machine qui pile le riz, mais pour avoir des machines à cultiver, ici, je n'ai jamais vu. C'est les gens qui cultivent avec le kayan, les garçons et les femmes hydropiques.
Il faudrait donner aux petits agriculteurs l'accès au crédit ou microcrédit, disent les experts, pour les aider à accroître leur production. De meilleures infrastructures agricoles, comme les installations de stockage, des systèmes d'irrigation et réseaux routiers, et un meilleur accès à l'information sur les marchés sont également nécessaires.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivie.